Roll.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, bienvenue si vous nous rejoignez. Comme tous les jours, RFI vous propose de commenter l'actualité. Vous êtes déjà très nombreux sur la page Facebook de l'émission à souhaiter participer au débat que nous allons lancer dans une trentaine de minutes. Débat sur une possible révision de la constitution au Congo-Brazzaville. En théorie, Denis Sassou Nguesso ne pourra pas se représenter en 2016. Non seulement il aura terminé son deuxième et dernier mandat, mais il sera touché par la limite d'âge fixée par la loi fondamentale. En tout cas, la semaine dernière, le président sortant a annoncé chez nos confrères de la BBC qu'un référendum constitutionnel sera organisé. Alors évidemment, l'opposition est vent debout et au sein même de la majorité présidentielle, certaines voix dénoncent également cette perspective. Alors que pensez-vous de ce projet de référendum? Quelles peuvent être les répercussions politiques? Nous en parlerons. Vos commentaires évidemment nous intéressent, vos analyses. 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, comme tous les jours, vous le savez, nous commençons avec vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Beaucoup de questions sur le Nigeria. Après la victoire de l'opposant Muhammadu Buhari à l'élection présidentielle, victoire historique de l'opposition, car pour la première fois depuis le retour de la démocratie, il y a non seulement une alternance démocratique, mais pacifique également. On va en parler au travers vos nombreuses questions et avec nous pour essayer de mieux vous éclairer sur la situation et le contexte nigérian, Daniel Bach, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, enseignant à Sciences Po Bordeaux et spécialiste du Nigeria. Merci d'être avec nous durant les 20 prochaines minutes pour tenter donc de répondre. On va essayer au plus grand nombre de questions. Il y a beaucoup d'auditeurs déjà au standard. La première question nous vient du Niger. Bonjour Issa.
Oui, bonjour Juan.
On vous écoute. Hein.
Donc, j'ai des questions sur le Nigeria. La première, qu'est-ce qui peut expliquer le score impressionnant de Muhammadu Buhari au nord? On sait bien que Buhari était ressortissant au sud, j'allais dire. On sait bien que Buhari était ressortissant du nord, à moitié musulmane.
Oui,
la deuxième question.
Alors, on va déjà répondre à cette première question, Daniel Bach. C'est vrai que de nombreux chrétiens du Sud ont voté pour ce musulman du Nord. Comment peut-on l'expliquer?
Oui, je crois que c'est là que réside la victoire de Buhari. Le fait que dans le Nord, d'abord, parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans le Nord, il y a de nombreux chrétiens, en particulier à Kaduna, par exemple, dans le sud de l'État. Mais dans nombre des États du Nord, il y a des minorités chrétiennes très importantes. Et à Kaduna, par exemple, Buhari a obtenu de très très bons résultats. Ça a été un des États pivots pour lui. Alors dans le Sud, évidemment, il y a eu également, en particulier dans le Sud-Ouest, il a remporté tous les États Yoruba du Sud-Ouest sauf un, Ekiti, mais même là, il a fait un assez bon score. Et je crois que on retrouve là le fait qu'on a d'abord affaire du fait des exigences du système politique nigérian à une machine électorale. C'est-à-dire qu'on a eu une alliance de quatre partis, et ça a été la force de l'APD, de cette capacité à constituer une alliance. Et ces quatre partis englobaient en particulier des partis qui traditionnellement ont un soutien en pays Yoruba. Mais même dans ce qu'on appelle le plateau central du Nigeria, c'est-à-dire la zone qui est entre ce qu'on appelle le sud et le nord, eh bien là, il y a eu de très bons résultats de
Buhari. Ça veut dire quoi? Que son élection finalement a dépassé le seul critère confessionnel?
Oui, je crois qu'on a eu pour la première fois sans doute une élection qui correspondait non pas à des combinaisons électoralistes, mais à un programme politique qui s'est un peu imposé par la force des choses, c'est-à-dire le balai qui était le symbole du parti de l'APC, donc le balai est devenu en quelque sorte se débarrasser de Boko Haram, rétablir le contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire dans le Nord en particulier, se débarrasser de la corruption, faire face à la crise économique qui est consécutive à l'effondrement des cours du pétrole, mais pas seulement, parce que les populations du Sud attendent, et comme du Nord, attendent pour une bonne partie d'entre elles de voir les résultats de cette prospérité économique dont le Nigeria est censé avoir bénéficié pendant 10 ans.
En tout cas, on nous avait annoncé un scrutin particulièrement serré, le plus serré de l'histoire du pays. Finalement, Buhari a remporté l'élection avec plus de 2,5 millions de voix d'avance. Vous aviez une autre question, Issa ?
Oui, là, la deuxième question, je voudrais savoir le rôle que joue la religion dans le vote au Nigeria.
Alors, cette fois-ci, on a parlé de première, Daniel Bach, mais par le passé, est-ce qu'on peut dire que les dissensions politiques se font en fonction des religions et des ethnies au Nigeria ?
Alors, le Nigeria a la particularité d'avoir cherché à codifier la représentation politique de manière à prendre en compte à la fois les critères religieux et les critères géopolitiques, c'est-à-dire l'ethnicité. Et donc, il y a toute une série de règles. Buhari a gagné l'élection parce qu'il a été capable, de, comme on vient de le dire, d'aller au-delà d'un simple comptage régional ou religieux. Mais pour être élu au Nigeria, un président doit obtenir au moins 25% des voix dans une majorité d'État, une majorité de suffrages, pardon, et au moins 25% des voix dans les deux tiers des États. Ça veut dire qu'on ne peut pas gagner, si on est musulman, sans avoir un soutien de vote chrétien. Par ailleurs, il y a cette règle qui souligne par contre le fait que l'instrumentalisation de la religion est extrêmement prégnante au Nigeria. Il y a cette règle d'alternance qui est une règle informelle, qui n'est pas constitutionnelle, entre un président du Nord et un président du Sud. Et lorsque le président est du Nord est musulman, son vice-président est chrétien.
Effectivement.
Et c'était un des reproches qui était formulé, y compris par des gens du Nord qui n'étaient pas forcément musulmans, que Jonathan, pour des raisons un peu particulière, hein, il était initialement vice-président, puis ensuite il est devenu président, était candidat pour un deuxième mandat, mais qui était considéré par certains comme plus qu'un deuxième mandat, puisqu'il avait été président par intérim précédemment.
Daniel Bach, reste avec nous, beaucoup de questions, on va essayer de répondre un peu plus rapidement aux prochains auditeurs. Abdoul, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez des États-Unis, vous êtes dans le Connecticut, on vous écoute.
Oui, ma question, c'est sur la réussite des élections au Nigeria. Quels sont les éléments positifs qui ont conduit à cette réussite? Et si la carte biométrique a vraiment permis d'éviter les fraudes dans cette élection?
C'était la première fois, Daniel Bach, que les électeurs nigérians étaient identifiés par des lecteurs d'empreintes digitales. On peut dire véritablement que le système biométrique a permis de limiter la fraude?
Oui, ça a été perçu pendant longtemps comme une faiblesse. Beaucoup se sont élevés. Ça a été en fait un enjeu électoral. Le PDP, le parti au pouvoir, donc n'en voulait pas. Et en réalité, ça a joué un rôle décisif parce que ça c'était un peu lourd à mettre en place, puisqu'il y a d'abord fallu créer ces fameuses cartes électorales, les distribuer. Ensuite, il y a eu le processus d'accréditation le matin. Les gens sont venus finalement confirmer leur identité et avoir le droit de voter, et ils ont voté l'après-midi. Mais le résultat, c'est que je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de violence au Nigeria. Il n'y a pas eu de violence post-électorale comme on le craignait beaucoup, contrairement à 2011, parce que le sentiment de l'électorat a été que les élections étaient légitimes.
Ouais. Il y a eu tout de même quelques couacs techniques, hein, puisque des empreintes digitales n'ont pas toujours été reconnues. D'ailleurs, Good Luck Jonathan, le président sortant, a lui-même fait les frais de ces couacs techniques. Je crois qu'il n'a pas été reconnu immédiatement par la machine. Il a dû s'y prendre à plusieurs reprises, mais effectivement, il a fallu dans plusieurs centaines de bureaux de vote, revoter le lendemain, le dimanche, à cause de ces problèmes. Autre question au 339-693-693-70. Bonjour Florent.
Oui, bonjour à tous les visiteurs.
Vous êtes à Djamena, au Tchad. On vous écoute.
Oui. Ma question par rapport à l'élection au Nigeria, quelles sont les mesures envisagées par Mohamedou Bouhiri pour lutter contre la corruption?
La lutte contre la corruption, c'est effectivement l'une de ses priorités. Daniel Bach, corruption qui gangrène la société nigériane, que compte-t-il faire ?
Alors pour le moment, on n'a pas de détails. Il faut quand même savoir que il ne sera effectivement président qu'à partir du 29 mai, donc oui. Il y a encore, et que les élections ne sont pas terminées. Le 11 avril prochain, l'élection des gouverneurs qui sont au Nigeria des personnages extrêmement importants a lieu. Donc on n'a pas encore une idée de la marge de manœuvre et surtout des conditions dans lesquelles le pouvoir sera exercé.
Mais en même temps, durant la campagne électorale, il n'a cessé de dire la corruption n'aura plus sa place au Nigeria, en tout cas plus de place dans mon administration. Donc oui. J'imagine qu'il a quand même détaillé un minimum de mesures à mettre en place.
Alors je pense que une des premières choses, c'est de laisser les organismes qui sont censés lutter contre la corruption, comme les FCC par exemple, faire leur travail. Il y a eu une politisation très forte du travail de les FCC durant ces dernières années. Il y a un certain nombre de gouverneurs qui vont avoir des comptes à rendre. On peut effectivement penser que dans l'administration, il va y avoir, comme Boari en a acquis la réputation, parce que c'était quand même, il avait mis en prison à peu près 500 personnes lorsqu'il a été président, enfin non, il n'était pas président, il était chef de l'État dans les années 80.
Il avait pris le pouvoir par un putsch.
Il avait pris le pouvoir par un putsch, et un putsch très populaire à l'époque. Il faut quand même le rappeler, la fin de la Deuxième République avait été saluée, l'intervention des militaires avait été saluée parce qu'il y avait un déclin, il y avait une crise assez comparable à ce qu'on a actuellement. Il y avait une chute des cours du pétrole, il y avait un discrédit total, alors ça c'est pas le cas actuellement, des élections parce que elles avaient été, il y a eu beaucoup de corruption et on avait une situation de quasi-parti unique, et donc il y avait énormément de... C'est un régime très populaire au départ. Ensuite, quand il a mis en prison, quand il a obligé un certain nombre de gens, les fonctionnaires à aller travailler lorsqu'ils étaient censés travailler, etc., etc., ça a été moins populaire.
Alors, en tout cas, Boari, effectivement, a cette réputation d'être un homme incorruptible, et cette perception, cette image date de la période des années 80 lorsqu'il avait pris le pouvoir donc au Nigeria. 33 9 693 693 70, ce sont vos questions sur l'actualité au Nigeria après la victoire de Mouhamadou Boari la semaine dernière. Moustapha, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour RFI.
Vous êtes en Côte d'Ivoire, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui. Monsieur Boari a promis de redynamiser l'économie pendant sa campagne. Juan, moi j'aimerais savoir, comment va-t-il s'y prendre pour arriver à redynamiser cette économie qui est en berne, sachant que les prix du baril de pétrole sont en baisse.
Ouais. Le brut, le pétrole qui pèse tout de même pour 70% dans le budget de l'État, Daniel Bach, c'est une bonne question. La première économie du continent africain se retrouve malgré tout avec des caisses de l'État qui sont vides. Comment va-t-il faire, Boari?
Oui, alors c'est le paradoxe, parce que c'est la première économie du continent africain, et lorsqu'on a revalorisé le calcul de la richesse nigériane, ce qui a été surtout frappant, c'est de voir que le pétrole était moins important dans cette richesse que ce qu'on pensait, les services, toute une série, l'agriculture. Et donc le grand défi pour les années à venir, mais qui n'est pas nouveau, c'est comment diversifier, réduire la part du pétrole dans les revenus, vous avez parlé des 70%, comment réduire cette part et comment accélérer cette diversification de l'économie dans un contexte qui est un contexte actuellement défavorable, puisque il y a une réduction de la des cours du pétrole assez très importante, à peu près 50% depuis des revenus depuis 6 mois. En même temps, on peut penser que le déroulement des élections est excellent augure vis-à-vis des investisseurs, parce que il y a quand même une confiance dans le Nigeria qui risque d'être retrouvée du fait du déroulement des élections.
Ouais, mais les attentes économiques et sociales sont extrêmement importantes. Plus de la moitié des Nigérians vivent tout de même sous le seuil de pauvreté, donc avec moins de $2 par jour.
Voilà, donc on a à la fois un problème qui est le problème de la mise en place de politiques publiques, c'est-à-dire de politiques qui ne soient pas gangrénées par la corruption et par le clientélisme, et en même temps, il faut trouver les bonnes politiques, c'est-à-dire des politiques qui permettront de répondre au fait que, comme vous le dites, l'âge médian au Nigeria, c'est 19 ans. Donc il y a une énorme masse de jeunes qui attendent de trouver des emplois, de gens qui luttent pour leur vie quotidienne. Et là donc, il y a des attentes vraiment très importante à l'égard du nouveau cabinet et du nouveau président.
Sélou nous appelle de la Guinée-Conakry. Bonjour Sélou.
Bonjour Anne Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Soyez bienvenus, on vous écoute.
Et je disais que, connaissant que Mohamed Bouhari est un musulman du Nord, est-ce que son élection influencera-t-il les élections commises par Boko Haram dans cette région du Nord?
Ah, Bouhari sera-t-il plus efficace contre Boko Haram que son prédécesseur Goodluck Jonathan? Le fait d'être musulman, est-ce que c'est un atout? Il a promis de lutter contre Boko Haram. Hein. C'est vraiment une priorité aussi importante que le redressement de l'économie. Daniel Bach, vous en pensez quoi?
D'abord, il faut revenir à la personnalité de Bouhari. C'est un musulman, mais c'est aussi un militaire. C'est un militaire et qui a toujours été extrêmement nationaliste. Il faut pas oublier que quand il est devenu chef de l'État, il a fait fermer les frontières du Nigeria avec ses voisins pour essayer de mettre fin à la contrebande. Il a eu des accrochages avec des rebelles tchadiens, enfin des populations tchadiennes qui occupaient ce que lui considérait comme étant une partie du Nigeria, des îles en fait sur le lac Tchad. Il n'a pas approuvé du tout le fait que une solution de conciliation soit trouvée à propos de Bakassi, c'est-à-dire en fait une rétrocession au Cameroun de la péninsule de Bakassi. Donc c'est quelqu'un qui va avoir, je pense, à cœur de donner à l'armée les moyens de la réformer. C'est quand même très humiliant de son point de vue et de point de vue de beaucoup de Nigérians de voir qu'on a dû faire appel à des mercenaires sud-africains pour essayer d'améliorer le score de l'armée nigériane. Mais donc je pense qu'il y a tout un contexte qui font que il va vouloir et son entourage va vouloir faire en sorte qu'on se donne les moyens de lutter contre Boko Haram. Il y aura une plus grande sensibilité à la situation des populations du Nord, ça c'est très clair aussi.
Et il a également qualifié d'humiliante la nécessité pour le Nigeria de faire appel aux pays voisins, aux armées des pays voisins pour lutter contre Boko Haram. On a justement une question sur ce point. Djibrine, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes au Tchad, à N'Djamena, on vous écoute.
Alors moi, ma question est de savoir que compte faire le président Bouhari en ce qui concerne donc les soldats tchadiens nigériens qui combattent aux côtés de l'armée nigérienne dans le nord du pays. Compte-t-il modifier la coopération avec les pays voisins qui combattent aussi aux côtés de l'armée nigérienne?
Alors, Bouhari va-t-il renforcer la coopération ou au contraire, va-t-il tout faire pour traquer Boko Haram tout seul?
Alors, si je voulais être un peu ironique, renforcer la coopération, il n'aura pas de mal à le faire parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de coordination. Le président tchadien s'en est plaint ouvertement.
Bien sûr.
Et du coup, une bonne partie des interventions efficaces des pays voisins du Nigeria, des forces armées des pays voisins du Nigeria, se sont trouvées confrontées à une espèce de vide. Donc, il y a un vrai problème de coordination, effectivement, qui se pose, d'articulation et il me semble que c'est dans la logique. Maintenant, étant donné les contentieux, et il va falloir dépasser tous ces contentieux, mais je pense que l'urgence de la situation et la nécessité de rétablir un véritable contrôle du territoire et une légitimité de ce contrôle par les forces armées. Il ne faut pas oublier que les forces armées ont souvent commis des exactions à l'encontre des populations du nord-est du Nigeria.
Mais vous pensez qu'il laissera l'armée tchadienne intervenir sur le territoire nigérian, comme c'est le cas aujourd'hui?
Ah, effectivement, il y aura un souci de faire en sorte que les forces armées nigérianes soient présentes. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait des opérations conjointes qui fassent que les forces de Boko Haram soient prises en tenaille.
En tout cas, des islamistes du groupe Boko Haram ont encore commis un massacre. On l'a appris hier, lundi. Au moins 24 personnes ont été tuées dans un village de l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Merci beaucoup, Daniel Bach, d'avoir été avec nous, d'avoir pris 20 minutes dans votre emploi du temps particulièrement chargé pour répondre à quelques-unes des nombreuses questions. On s'excuse pour tous ceux qui patientent encore au standard. On a été gourmands. En tout cas, on pensait qu'on pouvait prendre plus d'auditeurs ce matin. Merci à tous de votre fidélité. D'autres questions évidemment demain. D'ici là, surtout n'hésitez pas, appelez-nous. On attend vos questions. 33 9 693 693 70. Dans un instant, le journal et on sera de retour dans 10 minutes pour notre débat du jour. On parlera d'une éventuelle révision de la Constitution au Congo-Brazzaville.